avec la revue de presse internationale de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour.
En Allemagne, Angela Merkel a sauvé hier sa coalition de gouvernement, mais au prix d'un tonitruant camouflet.
Et le visage à la une de la presse allemande ce matin, c'est celui de Hans-Georg Maaßen, limogé hier par la chancelière de son poste à la tête des services de renseignement allemand, mais immédiatement promu secrétaire d'État par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. C'est un accord qui a été trouvé pour éviter l'implosion de la grande coalition, nous explique la Zeit. Après une réunion de crise entre Merkel, son ministre devenu meneur de la fronde contre sa politique migratoire, et la dirigeante du SPD, Andrea Nahles. Car la crise était profonde depuis fin août au sein de l'exécutif allemand, autour donc de Maaßen et de ses positions sur les violences xénophobes de Chemnitz, de ses liens ambigus avec le parti d'extrême droite, l'AfD aussi. En relativisant de manière scandaleuse, selon la Frankfurter Rundschau, ces chasses aux migrants menées dans la ville de Chemnitz par des néo-nazis fin août, Hans-Georg Maaßen avait démontré son aveuglement, sinon sa complaisance avec la xénophobie montante dans l'est du pays. Il est donc exfiltré du renseignement pour mieux rebondir instantanément au ministère de l'Intérieur. C'est une promotion, il va même être payé 3000 euros de plus chaque mois, note la Zeit. Et cette promotion au nez et à la barbe de la chancelière conforte finalement Maaßen et Seehofer dans leur position hostile à la politique d'asile portée par Angela Merkel. Ce qui s'est passé hier, commente Bertolt Köhler dans la phase, nous montre que les tensions autour de cette politique migratoire ne seront pas réglées tant qu'Angela Merkel restera chancelière. Dans cette affaire, le cas personnel de Maaßen s'est finalement effacé pour devenir le symbole d'un débat de fond entre politique d'accueil optimiste des migrants et inquiétude xénophobe sur les dangers de cet accueil. Cette coalition autour de la chancelière ne fait plus que verser d'une polémique vers une autre. C'est la seule chose qui semble tenir ensemble SPD, CSU et CDU. C'est, selon la phase, donc la peur qu'en rompant leur fragile alliance, ces partis de la coalition n'ouvrent un boulevard à l'AfD et à ses idées.
Et puis on reste en Allemagne, Camille, où les médecins berlinois qui soignent l'opposant russe Piotr Versilov estiment qu'il a vraisemblablement été empoisonné.
Oui, la nature des maux dont souffre le militant des Pussy Riot semble bien correspondre avec les effets d'un poison dont la nature n'a pas encore été identifiée. Voilà le bilan de santé établi hier par les médecins de la clinique de la Charité à Berlin, donc, où Versilov est soigné en soins intensifs depuis le 15 septembre. Le site d'info russe News.ru relaie les nouvelles plutôt rassurantes. La vie de Versilov n'est plus en danger, son état s'améliore même s'il reste très affaibli. Piotr Versilov nous rappelle l'article, c'est le mari de la Pussy Riot, Nadiezhda Tolokonikova. Il fait partie de ces deux militants qui s'étaient introduits sur la pelouse moscovite en pleine finale du dernier mondial de foot. Et il dirige aussi le site d'investigation Mediazona. Et c'est d'ailleurs là, selon Novaya Gazeta, qu'il faut chercher les raisons du probable empoisonnement de Versilov. Il devait recevoir, le jour où il est tombé malade, des informations particulièrement sensibles sur la mort de 3 journalistes russes le 1er août en République centrafricaine. L'un d'eux, Alexander Rastorgev, était un proche de Versilov et le jeune homme avait personnellement engagé des informateurs sur place en Centrafrique pour enquêter sur cette mystérieuse disparition. C'est l'un de ces informateurs qu'il devait rencontrer la semaine dernière. Ces informations dérangeaient-elles des personnes en haut lieu, comme le sous-entendait Nadiezhda Tolokonikova hier depuis la clinique de Berlin. Les 3 reporters tués en Centrafrique, eux, enquêtaient sur les activités de mercenaires russes engagés par des sociétés militaires privées proches du Kremlin dans ce pays africain.
Et un coup d'œil enfin, Camille, à la presse d'Afrique du Sud. Là-bas, la Cour constitutionnelle a légalisé la possession, la consommation et la culture de cannabis.
Oui, tout est légal du moment, en tout cas, que vous le faites chez vous. Le respect de l'intimité du domicile a donc présidé à cette victoire judiciaire historique pour la communauté rastafarienne d'Afrique du Sud, qui n'a pas fini de fêter ça, à en croire le Times Live. D'ailleurs, il y avait beaucoup de dreadlocks dans le public hier quand le président de la Cour, le juge Zondo, a rendu sa décision.
In its judgment, this court concludes that sections...
La Cour invalide donc les articles du Code des drogues sud-africains relatifs au cannabis qui sont jugés inconstitutionnels. Et vous entendez la réaction du public dans cette High Court que l'on pourrait traduire en anglais en cour défoncée. Mais là n'est pas le sujet. Non. Le Daga, comme on surnomme le cannabis en Afrique du Sud, est donc légalisé. Cela va contre l'avis d'une majorité de Sud-Africains, croit savoir le journal L'Independent Online. Mais sur le fond, le Daily Maverick, lui, précise que le gouvernement va devoir inscrire cette décriminalisation dans la loi. Il a 2 ans pour le faire. Et puis, au sein de cette décision, ce qui a présidé à cette décision, c'est bien une vision très très protectrice de la sphère intime personnelle dans le cadre du domicile de chaque citoyen, où les pouvoirs publics finalement n'ont pas à interdire quoi que ce soit. Le Daily Maverick, toujours lui, retient un autre aspect de cette décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine. Elle reconnaît qu'il y a une longue tradition de consommation de cannabis chez les Noirs d'Afrique du Sud en particulier, et que même si cette drogue pose de très importants problèmes sociaux, continuer à criminaliser ceux qui la consomment reviendrait à faire perdurer une forme de discrimination.
Vous racontez cette histoire de libéralisation avec une voix enjouée, c'est suspect, Camille.
Pas du tout, vous me connaissez
mal. En tout cas, cette revue de presse internationale est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.